Alors, pour cette première soirée du séminaire Chant Lacanien, c'est pour moi, vous êtes très nombreux. Donc, nous allons, pour cette première soirée, donc Colette va parler des célébrations, en tout cas, elle a rendu les occurrences chez Lacan. Et nous. Séminaire, la première soirée du séminaire école, nous avons changé la formule cette année. Vous permet d'avoir plusieurs, pas ce soir c'est un peu exceptionnel, nous avons donc plusieurs intervenants par soirée avec deux discutants. Et on n'annonce pas ni les noms, ni les intervenants. Bon. Donc vous ne venez pas sur un nom, vous venez sur un thème. Voilà. En tout cas, vous venez nombreux, même si Colette vous avez déjà annoncé. Voilà, je ne vous présente pas Colette, naturellement. Je vais vous passer la parole.
Merci. Alors, j'ai intitulé ce que je vais vous dire, comment Lacan parlait-il de la ségrégation. Eh bien, quantitativement, il en a assez peu parlé. Quantitativement, et il ne la définit quasiment jamais. C'est-à-dire qu'il en tient la définition pour évidente, je suppose. Alors j'ai recensé les trois grandes entrées principales. Il y a celle dont on parle le plus, qui est la plus connue parmi nous, et c'est Lacan anticipant les évolutions du siècle et annonçant la montée des processus de ségrégation. Vous connaissez, fin de la proposition. Moins populaire chez les Lacaniens, mais beaucoup plus développée par Lacan, la ségrégation dans et par la psychanalyse. Et puis, enfin, un troisième thème, presque ignoré, et moi-même, je ne l'ai aperçu qu'en préparant ce que j'allais vous dire. Un thème amusant, apparemment, la ségrégation urinaire. Amusant, apparemment, mais pas du tout secondaire, même peut-être fondateur. Alors, je vais commencer par là, et dans mon exposé, je vais remonter l'ordre inverse de ce que je viens d'annoncer. Et je commence donc par la ségrégation urinaire. C'est l'instance de la lettre, page 499. La ségrégation urinaire, elle s'impose à la vue, je cite, dans l'image de deux portes jumelles qui symbolisent l'isoloir, offert à l'homme occidental pour satisfaire à ses besoins naturels hors de sa maison. L'impératif qu'il semble partager avec la grande majorité des communautés primitives et qui soumet sa vie publique aux lois de la ségrégation urinaire. Alors, en lisant ça aujourd'hui, ça n'avait jamais attiré mon attention. En lisant cela aujourd'hui, je réalise, moi qui ai passé pas mal de temps à m'amuser à recenser au fil des ans tous les espaces de la ségrégation des femmes, où les femmes ont réussi à entrer à force de lutte à visée égalitaire, eh bien je m'aperçois qu'il y a un espace qu'elles n'ont jamais revendiqué. Celui des toilettes paritaires.
Quand il y a la queue du côté femme, elles vont du côté homme.
En fait, ça existe.
Vous ne connaissez pas le nom de paritaire.
Alors, ce cloisonnement a résisté aux évolutions de la société vers l'égalité homme-femme. Alors, ce fait, Lacan l'a marqué en 57 et il n'a quasiment pas bougé. au point que personne ne le remarque, à vrai dire. Et il est inhérent à la socialisation de nos corps, dans nos sociétés. L'époque a entériné le mariage pour tous, mais personne ne demande les cuvettes pour tous. Ça, c'est net. Alors, quelle est la portée de ce fait? C'est ça la vraie question. Quelle est la portée de ce fait? Eh bien, si on suit l'instance de la lettre, ce fait n'est pas intéressant seulement en raison des mœurs qu'il traduit. Il est intéressant pour ce qu'il révèle, selon Lacan, du ressort foncier de toute ségrégation. La ségrégation se définissant, comme je l'ai dit, par des espaces réservés. Quel est ce ressort? Eh bien, Lacan pose, c'est le signifiant. Dans la suite de ce que je viens de citer de Lacan sur la ségrégation urinaire, il dit que cette ségrégation urinaire qu'il souligne, ce n'est pas pour sidérer par un coup bas le débat nominaliste, mais pour montrer, voilà deux points, comment le signifiant entre en fait dans le signifié, à savoir sous une forme qui, pour n'être pas immatérielle, pose la question de sa place dans la réalité. On a là affaire au signifiant non pas dans l'inconscient, mais au signifiant passé dans la réalité sociale. Et donc, Lacan voit dans la ségrégation urinaire, le fondement de la ségrégation urinaire, l'efficace du signifiant. Et c'est pour ça qu'il parle d'un coup bas pour les thèses nominalistes, puisque les nominalistes postulent au fond, pour aller vite, hein, que les mots et les noms du langage n'ont pas d'effet de réalité. En effet, avec les toilettes séparées, on voit bien que les deux signifiants différentiels, homme-femme, non content d'avoir des signifiés distincts, façonnent les espaces de la réalité en y introduisant une ségrégation des espaces distincts qui répercutent la structure différentielle des deux signifiants. Façon donc de dire déjà, on est dans l'instance de la lettre, c'est très tôt chez Lacan, que le signifiant n'a pas seulement des effets de sens qui flue, comme nous savons, mais qu'il a des effets bien réels, qu'il est en prise sur les données de l'ordre social, sur ce qui règle le mouvement des corps, et spécifiquement les modalités de satisfaction de leurs besoins. Car avec l'urinaire, il s'agit bien de l'impossible à éviter d'un besoin à satisfaire. Pas étonnant, donc, que Lacan souligne que l'homme occidental ne se distingue pas sur ce point de l'homme des communautés primitives. Alors, avec les toilettes séparées, qui montrent le signifiant sorti du seul champ du langage pour régler le déplacement des corps, je suppose que vous percevez que l'on a là une sorte d'anticipation dans l'enseignement de Lacan de la notion de discours qu'il va construire des années après. Les discours se définissant, comme il le dit lui-même, par des relations symboliques inscrites hors du langage et qui fondent la réalité, notre réalité, indépendamment de la parole. d'où son expression de discours sans parole. Alors, notre époque, c'est vrai, qui a rendu possible à peu près toutes les promiscuités hommes-femmes. Dans notre société, le globe n'est pas unifié à cet égard, mais dans nos sociétés, les hommes et les femmes peuvent voisiner, partager le même espace à peu près partout, habillés ou pas. Les considérations de couleur de l'apartheid elles-mêmes ont été éliminées. Nous n'avons plus de toilettes pour blancs chez nous. Ce que nous avons tendance à considérer d'ailleurs comme un progrès de l'homme occidental. Mais ce progrès dans la non-ségrégation a sa limite dans la ségrégation urinaire, maintenue des hommes et des femmes. Lacan le disait dans les années 50, et c'est toujours là. Alors maintenant, si on se souvient du lien de l'urination au phallique, qui est en exercice, tout le monde le sait, dès les cours d'école primaire, on voit que cette ségrégation que l'on pourrait vouloir attribuer à quelques pudeurs à l'égard de la chair, eh bien, elle indique plutôt ce que la pudeur est faite pour masquer, à savoir un mode de jouissance, une érotisation du besoin naturel d'uriner. Et voyez ce que Lacan dit dans Radiophonie, où il évoque, je cite, la joie phallique de l'urination primitive, voilà encore nos primitifs, la joie phallique de l'urination primitive dont l'homme, dit la psychanalyse, répond au feu. C'est une phrase de, jolie phrase de Radiophonie. Autrement dit, l'isoloir pour le besoin naturel, il est surdéterminé. Et il fallait bien s'attendre à ce que l'esprit du capitalisme qui fait feu de tout bois puisse en faire usage. C'est ainsi que, par hasard, on pouvait entendre à la radio le 4 octobre 2018, il n'y a pas longtemps, qu'un grand scandale de sucre trafiqué, saturé de mercure et de cuivre, au Kenya, avait été spécialement difficile à démonter en raison des canaux par lesquels il passait. Il passait par les toilettes des femmes, où les enquêteurs masculins ne pouvaient décemment pas entrer. Signe supplémentaire, s'il en fallait un, que les abus à l'égard des femmes n'ont peut-être pas encore transgressé complètement la ségrégation urinaire. Alors je termine. Ce qui n'est pas amusant dans cette thèse, dont on peut s'amuser, eh bien c'est que si la ségrégation est solidaire de la structure du langage, si c'est le binarisme du signifiant qui se répercute en espace ségrégué, vous voyez la conséquence. Il n'y a aucune chance, jamais, de pouvoir faire disparaître les processus de ségrégation chez ces animaux sujets au langage que nous sommes. Et il est certain que ces processus ont toujours existé, en plus, jusque-là, je l'ai souligné. Seules les formes changent en fonction des liens sociaux. Dans cette ségrégation urinaire qui résiste aux évolutions du temps, évidemment, ce qui vibre en sourdine, c'est l'idée de Lacan, selon laquelle la ségrégation des femmes est inévitable. Dès lors que par définition, tout discours constitué implique l'exclusion de l'autre, grand A, majuscule, l'autre de l'autre sexe. On pourra revenir là-dessus. Alors je reviens à mon second point, la ségrégation par la psychanalyse et dans la psychanalyse. Alors là, les textes de Lacan sont très nombreux. Premier point, c'est petit passage, deux petits paragraphes de l'instance de la lettre. Et je n'ai pas vu d'autres occurrences. Il y en a peut-être, hein, mais je ne l'ai pas vu. Donc, sur la ségrégation dans la psychanalyse, les textes sont très nombreux. Ou pire, le petit texte écrit au début de 6-7-5, page 6 et 7, deux ou trois paragraphes très denses. Radiophonie, 6-7-2-3, page 80 et 81. La proposition de 67, avec sa première version, n'est pas tout à fait identique. Et puis, les discours en 70. Alors, c'est un point que je crois difficile. La thèse est très explicite chez Lacan. Hein. Et je crois que ce point tombe sous le coup d'un certain non-rien vouloir savoir chez les analystes eux-mêmes. Et même ceux qui se veulent lacaniens. Une partie de la thèse. Alors sa thèse à Lacan, c'est que non seulement il y a une ségrégation inhérente à la psychanalyse, mais qu'en plus cette ségrégation inhérente à la psychanalyse a le plus grand rapport avec une ségrégation antérieure qui est celle des Juifs. On touche là le thème, n'est-ce pas, vif. Ou pire, l'introduit de façon simple à partir de considérations que fait Lacan sur la création du dispositif analytique inventé par Freud. Et qui, selon Lacan, ce dispositif est l'os de l'invention freudienne. Beaucoup plus, dit-il, que celle de l'inconscient. Le dispositif, vous savez ce que c'est, hein ? C'est ce dans quoi nous sommes toute la journée quand on est analyste, ou une partie de la journée quand on est analyseur. Bon. Et Lacan, parlant de ce dispositif, la création de ce dispositif, il dit parfois l'invention du dispositif, il dit cette création ne pouvait se produire que d'une tradition de l'écriture. Ça, c'est une thèse bien connue pour nous. Hein. Et il y a toute une série d'autres textes de Lacan qui convergent, qui redisent cette thèse. Qui souligne que la méthode freudienne de lecture du texte analysant via son déchiffrage au texte analysant est une pratique qui répercute au début, à la fin du 19e, la tradition talmudique, qui est donc selon Lacan, l'origine fondatrice à longue échéance de la méthode freudienne. Façon donc de dire en clair que, selon lui, la psychanalyse, en tout cas son dispositif, ne pouvait être inventé que par un juif. Un juif, évidemment, d'après la science, hein, parce qu'il y a des siècles derrière. Alors, la première version de la proposition, page 580 des autres écrits, on trouve un très long commentaire de Lacan sur le savoir en jeu dans l'expression sujet supposé savoir, chose qui nous concerne de près. Et il dit, Lacan, ce savoir en jeu dans l'expression sujet supposé savoir, du transfert, c'est un texte. L'inconscient langage est un texte. Et il ajoute, n'importe quel clair d'autrefois, voire sophiste, colporteur de contes ou autre talmudiste. Je souligne le autre talmudiste qui implique que tout cela c'est des talmudistes, mais comme les talmudistes. Bon. Donc tous ces autres talmudistes seraient tout de suite ici au fait. Au fait donc du sujet supposé savoir. La psychanalyse. Le psychanalyste freudien s'est ajouté à ces autres talmudistes qu'il a évoqués, le colporteur, le sophiste, etc., le clerc d'autrefois. Alors sur ce point-là, nous n'avons pas de réticence, au contraire. Nous nous piquons de lire ce que l'inconscient écrit, comme le talmudiste qui, selon Radiophonie, par sa lecture, je cite Lacan, tire un dire autre du texte. Vous trouvez ça à page 80, 6, 7, 2, 3. Et c'est ce que Freud appelait le contenu latent, au fond, auquel on accède par déchiffrage de la lettre. Là, on est en terrain connu pour nous. Hein. On s'accorde sur la tradition de l'écriture, à laquelle on se rattache, on en est plutôt fier. Mais on oublie ce que Lacan ajoute. Il ajoute une ségrégation en résulte. Il ne s'agit évidemment pas dans ce cas-là d'une ségrégation spatiale. Hein, c'est une qui dessine un territoire de discours. C'est pas spatial, c'est un territoire de discours. Une sorte, si vous me permettez, une sorte de camp discursif. Je repasse le mot de camp exprès. Un camp discursif pour des élus, les élus du savoir libre. Ce sont les mêmes, ces élus du savoir libre, comme c'est moi qui les appelle comme ça, hein, ce sont les mêmes que Lacan nomme dans la lettre aux Italiens les rebuts de l'humanité. Parce qu'ils aiment le savoir, fait de signifiant que l'humanité n'aime pas. Et donc, c'est une ségrégation choisie et même idéalisée. Et Lacan fait le commentaire suivant. Il ajoute, ségrégation contre laquelle je ne suis pas. Vous voyez, l'expression est très, très intéressante. Il ne dit pas qu'il est pour, mais il n'est pas contre. Contre laquelle je ne suis pas, quoique j'y préfère une formation qui s'adresse à tout homme. La profession d'universalisme de la part de Lacan. Je vais y revenir plus loin. Je m'arrête d'abord à l'autre pan de la thèse. L'autre point de la thèse sur la tradition de l'écriture. Je n'ai pas cité complètement la phrase de Lacan. Je l'ai tronquée dans la citation. Je l'ai tronquée volontairement pour aller pas à pas, hein, parce qu'on ne peut pas dire tout en même temps. Mais la tradition de l'écriture, et il écrit l'écriture avec une majuscule, Lacan, cette tradition qu'il tient donc pour responsable du dispositif analytique, il ajoutait « tradition dont le joint est à sonder avec ce qu'elle affirme de la création ». Alors là, attention, il ne s'agit pas de la création du dispositif. Il s'agit de la création du monde, de l'univers, par, ma foi, Dieu le Père. Et Lacan pose là la question de la solidarité. Il dit joint, je dis solidarité, entre la tradition de l'écriture et la religion des Juifs, le Dieu des Juifs. Solidarité dont il va falloir se demander jusqu'où elle se répercute dans la psychanalyse. Alors, ce joint entre tradition de l'écriture et conception de la création du monde indique que les élus de l'écriture, comme je me suis exprimée, ou du savoir lire, pour désigner ceux qui savent lire, justement, les nouveaux talmudistes de la psychanalyse sont les héritiers d'autres élus, ceux du peuple élu, en clair. Et Lacan évoque explicitement cette ségrégation particulière, celle du peuple élu, qui est à l'origine mythique, religieuse, qui est l'effet d'un choix venu de Dieu et consenti par son peuple. Une ségrégation positive, on dirait aujourd'hui, en quelque sorte. En tout cas, Lacan dit, elle est constitutive de cette ethnie. Or, la chute de ces remarques dans le texte de Lacan est forte. Écoutez ça. C'est pourquoi, dit-il, pourquoi spécialement la religion des Juifs doit être mise en question dans notre sein. Notre sein, c'est la psychanalyse. Je m'en tiendrai à ces indications. Ça, c'est la citation de la première version de la proposition. Je m'en tiendrai à ces indications. La deuxième proposition, la version finale, qui est plus difficile à lire que la première, je trouve, en tout cas, comme toujours, les premières versions chez Lacan sont moins difficiles que les suivantes. La proposition de 67 dans sa version finale, elle est plus difficile, mais là où il se disait « je m'en tiens là », elle se tient un peu moins là. Elle va un peu plus loin. Et il y a plusieurs pans de la thèse, donc, de la fonction de cette origine dans la psychanalyse. Il y a plusieurs pans de la thèse. Il y a un premier pan qui est quasi sociologique, hein, qu'on trouve encore dans la première proposition. Il dit « Cette ségrégation constitutive des Juifs se répercute dans la psychanalyse. » Il parle de la psychanalyse de son époque, de l'IPA de son époque, hein. Cette ségrégation constitutive se répercute dans un rapport spécifique aux ségrégations montantes du siècle. Hein ? Et Lacan a largement développé l'idée que l'IPA, d'avant sa proposition, d'avant son école, hein, on ne parle pas de l'IPA d'aujourd'hui, je ne serais pas en état d'en donner un panorama fondé pour l'instant. Donc, il dit, il a l'idée que l'IPA, justement en raison de cette origine, s'est montrée préadaptée à la montée des ségrégations du siècle. Vous les connaissez, les ségrégations du siècle passé, n'est-ce pas ? Et il dit, préadaptée en ne laissant pas un de ses membres reconnu au camp d'extermination. Façon de dire que dans la psychanalyse, on a su protéger les analystes des camps d'extermination. Donc préadapté en quelque sorte, mais aussi adapté pas seulement préadaptées, mais aussi adaptées, parce qu'elles pratiquaient, cette IPA, une autre sorte de ségrégation, elle, une ségrégation choisie, une auto-ségrégation, quelque sorte, et c'est ce que Lacan a appelé son extraterritorialité scientifique, qu'il qualifie lui-même de ségrégation. L'extraterritorialité scientifique de la psychanalyse, c'est-à-dire le fait qu'elle maintient sa doctrine, qu'elle maintenait sa doctrine dans un espace réservé qu'on ne transmettait pas au grand public, c'était juste à l'intérieur des cercles analytiques que la doctrine circulait, donc c'était bien une ségrégation scientifique. Et Lacan nous dit, cette ségrégation choisie, presque méthodique, avait une fonction. Selon lui, il l'interprète en disant, c'était une assurance prise de trouver un accueil, une solidarité contre la montée des camps. Et donc, c'est catégorique chez Lacan. Bon. C'est donc le premier pan de la thèse. La préadaptation et l'adaptation de l'IPA contre la menace des camps. Le deuxième pan de la thèse de Lacan, c'est qu'il y a une cohérence entre la ségrégation constitutive du peuple juif et la ségrégation intellectuelle qu'ont maintenue les analystes de l'IPA, au moins jusqu'à la moitié du dernier siècle. Et donc, une cohérence entre cette origine et le maintien de l'extraterritorialité scientifique. Et vous savez combien Lacan a essayé de lutter contre le maintien de la doctrine analytique hors du champ des approches scientifiques. Et Lacan, avec ses deux pans, conclut « L'analyste se trouve ainsi protégé, s'étonnant, c'est-à-dire les analystes, d'une réduction des devoirs impliqués dans le désir de l'analyste. » La proposition, c'est page 588 dans les autres écrits. La proposition finale insiste. Lacan évoque ce qu'a voulu Freud avec l'IPA. Il dit sa flottabilité universelle, quoi qu'il arrive, par la ségrégation volontaire, en quelque sorte. Et là, il ajoute, Lacan, quoi qu'il en soit de ce qu'a voulu Freud, parce qu'il y a, dans un passage, on voit qu'il essaye de protéger Freud de ce qu'il est en train de dire de l'IPA, enfin, quoi qu'il en soit, ce recours à la ségrégation volontaire par l'extraterritorialité ne rend pas plus aisé au désir du psychanalyste de se retrouver dans cette conjoncture. Donc vous voyez là, c'est vraiment une thèse qu'il répète et sur laquelle il insiste. La thèse ne fait pas de doute, cette ségrégation, sauf pour Lacan, porte contre la psychanalyse, contre les devoirs impliqués par le désir du psychanalyste. Et il est bien clair, j'espère, qu'avec cette mise en question de la religion des Juifs, c'est la fonction du père dans la psychanalyse qui est en question. Celle du Dieu, le père des Juifs, qui n'est pas n'importe lequel de Dieu. Bien sûr, c'est un Dieu un des dieux du monothéisme, mais parmi les dieux du monothéisme, il se caractérise ce Dieu, je dirais, comme un père du commandement, via via Moïse. Peut-être vous percevez comme moi que quiconque parlerait aujourd'hui à haute voix dans ces termes, qui oserait évoquer les Juifs comme ça, la ségrégation constitutive de leur ethnie serait immédiatement taxée d'antisémitisme. Pas de doute. Hein, l'esprit du temps bouge. Hein. Heureusement, quand même, Lacan n'est pas en reste avec les chrétiens. Et son mot d'ordre, avec le mot d'ordre d'amour fraternel entre les humains, en général, mot d'ordre du christianisme, hein, c'est pas entre les élus, c'est entre tous les humains. Et il nous dit, eh bien, la fraternité, c'est la ségrégation. J'insiste pas, il y a des textes, des pages entières où il dit, la fraternité, c'est la ségrégation. Donc, pour la ségrégation, le christianisme n'est pas en reste. C'est d'ailleurs un thème freudien, hein, dans le texte Psychologie collective et analyse du moi, Lacan évoque la ségrégation des frères dans l'amour de Jésus-Christ. La thèse n'est pas thèse neuve ni très, très complexe. C'est évident qu'on est frère avec les uns, on n'est pas avec tous. Il faudrait là-dessus se pencher sur l'histoire de la conversion de l'empereur Constantin, si ça vous tente. Alors, que pouvons-nous, nous, aujourd'hui, tirer de toutes ces références de Lacan aux Juifs, à leur religion, au joint entre le Dieu du peuple élu et l'invention et la tradition de l'écriture freudienne? Je crois, derrière cette référence de Lacan, il y a ce que j'ai évoqué tout au début, l'idée, la visée d'une formation qui s'adresse à tout homme et donc pas seulement aux élus du savoir libre, hein, mais à tout homme. Alors si la psychanalyse s'adresse à tout homme et pas seulement aux élus du gai savoir, ça implique sans le dire une thèse, ça implique que la technique de lecture, de l'écriture du texte analysant, directement dérivée de la lecture freudienne via et talmudique, eh bien ça implique que finalement, elle n'est pas l'essentiel dans la psychanalyse. Pour que la psychanalyse s'adresse, concerne tout homme, il faut que même les non-élus du savoir lire et du gai savoir puissent y trouver place. Radiophonie. Persiste des signes, il dit, il faut passer à l'envers de la psychanalyse. Qui est le discours de Freud, lui, suspendu. Et sans recours au nom du père. C'est une citation, hein, sans recours au nom du père. On est l'année, avec radiophonie, on est l'année où Lacan a construit les discours, et notamment le discours analytique. Le discours analytique écrit ce que j'appelle, moi, l'universel de la psychanalyse. S1 et S2A, ça écrit l'universel de la psychanalyse. S1 et S2, ce sont des effets de langage. Et ils valent pour tous les problèmes. Quant à l'objet A, il peut fonctionner comme cause, mais jamais comme une loi, fût-elle celle du Père. Qu'il s'agisse de celui qui commande à son peuple via Moïse, ou plus près des pâquerettes, du Père idéal de l'Église et de l'armée chrétienne. Parce que les armées que nous connaissons, elles étaient chrétiennes. En ce sens, la psychanalyse écrit l'écriture du discours écrit l'universel de la psychanalyse écrit un discours laïque. Alors, est-ce la fin de la ségrégation analytique que Lacan a tellement développée? J'ai essayé de vous en rendre compte. Eh bien, pas du tout. Et il le souligne, car, dit-il, la formation que je préfère, qui s'adresse à tout homme, ne s'adresse pas à toute femme. Page 7 de Houpire. Et nous voilà revenus au point de résistance de la ségrégation des femmes que j'ai introduite par la ségrégation urinaire, qui a l'air légère à côté de tout ce qu'on vient d'évoquer. Tous les discours, les quatre que Lacan a écrits, sont ségrégatifs. Tous. Dès lors que chacun fabrique une race. Il faut là relire les passages de Lacan sur ce que c'est qu'une race. Ce n'est pas une couleur de peau. Une race, c'est un produit d'un discours. Donc, il n'a pas de mal à avancer l'expression racisme des discours en action. Bien. La ségrégation, c'est ce que ces quatre discours ont en commun. Quoique ils ne président pas tous à la même ségrégation, on pourrait s'occuper de la ségrégation propre à chaque discours, bien sûr. Ils ne président pas tous à la même, sauf que tous incluent la ségrégation des femmes. Et pourquoi? Pour le dire en bref, avec les termes de Lacan, puisque c'est de lui que je parle, parce qu'il n'y a de femme qu'exclue par la nature des choses, qui est la nature des mots. Et dès lors que la part pas toute ne passe pas par les mots, l'exclusion est structurale. Elle ne vient pas des méchants qui excluent. Tout discours se fabrique de S1, S2, S-barré, A. Aucun, en tant que discours, n'inclut, ne peut inclure l'autre grand A. Voilà donc la thèse complétée sur la ségrégation dans et par la psychanalyse. Alors maintenant, reste à se demander, et j'en viens au troisième point, reste à se demander que devient la ségrégation dans un état de la société, de la civilisation, où les discours se défont progressivement. C'est pas fini, mais c'est en marche. Les discours se défont, une société, au fond, où le capitalisme ne fabrique des tas de prolétaires. Et je viens donc au point, la montée des camps. Les camps, c'est pas la même ségrégation que celle des discours. C'est une ségrégation directe des corps, qui répartit les corps dans des espaces géographique cette fois, spécifique. Et donc, la ségrégation propre au camp, elle est solidaire des corps prolétaires, qu'ils soient déportés ou pas. Elle est interprétée par Lacan, cette montée des camps, c'est pas un mystère, hein, on le constate. Elle est interprétée par Lacan comme un effet de la science. Plus précisément, il dit cet avènement, l'avènement du camp. Vous vous rendez compte? On a parlé des avènements du réel. Bon. Cet avènement du phénomène fondamental dont le camp de concentration a montré l'éruption est corrélative de l'universalisation du sujet procédant de la science. Avènement réel, donc trop réel, dit-il, que nous avons vu émerger pour notre horreur. Lacan fait allusion ici au nazisme, bien sûr, mais pas seulement, au goulag. Parce que les camps, il y a eu les camps nazis d'extermination, les camps de concentration, qui sont bien plus larges. Eh bien, cet avènement réel, dit Lacan, représente, vous savez la citation, la réaction de précurseur par rapport à ce qui ira en se développant comme conséquence du remaniement des groupements sociaux par la science et nommément l'universalisation qu'elle y a produit. Voilà donc la thèse que nous connaissons bien et que nous répétons. La thèse est précise. L'universalisation à laquelle préside la science est solidaire des camps. L'universalisation, évidemment, on sait bien que c'est la considération de chaque être comme un. Et elle a été accueillie, cette universalisation de la science, comme une valeur, comme un progrès dans la civilisation. On a imaginé qu'elle s'opposait au fléau du passé, pré-scientifique, d'exploitation des hommes, et qu'elle allait de pair avec la reconnaissance des droits individuels. Bon, c'est vrai, elle allait de pair. Eh bien, c'est elle, cette universalisation que Lacan diagnostique comme un autre principe de ségrégation, qui n'a pas grand-chose à voir cette fois avec le dieu des Juifs. Hein. On a changé de volet, là. Et non seulement un autre principe de ségrégation, mais un principe qui la généralise, la ségrégation, et qui généralise une autre ségrégation. C'est ça le point. Alors, l'universalisation, nous savons bien, elle est le corrélat de l'indifférence à la subjectivité toujours singulière. Que les liens sociaux traditionnels laissaient en place. Hein. Traditionnel veut dire réglé par le discours du maître, en fait, en gros. Hein. Réglé donc par une relation signifiante, certes hiérarchique, disparitaire, ségrégative, mais établie, comme disait Lacan. Et le discours établi, ce n'est pas du blabla, hein, c'est une relation signifiante dans le réel. Alors, comme pour la ségrégation urinaire du signifiant dans le réel, le capitalisme, lui, ne crée aucun couple hiérarchique, disparitaire, etc. Le capitalisme, il réalise, il fait passer dans la réalité le sujet de la science. Et donc, il tend à défaire tous ces couples discursifs que les discours, que Lacan a appelé les discours. Au profit de quoi? Au profit des uns tout seuls. On peut le dire avec une formule Lacan, les uns tout seuls. Et d'où l'idée, formulée par Lacan, que l'homme du capitalisme est un prolétaire. C'est-à-dire qu'il n'a pas de quoi faire lien social. Et ce qu'il faudrait pour faire lien social, ce serait un couple signifiant qui tienne le coup. Bon. Alors la ségrégation qu'il promeut, le capitalisme, est une ségrégation spécifique qui consiste à parquer des corps dans des camps. Des corps qui sont indexés d'une identité, certes, ou d'un numéro. C'est-à-dire qu'on doit pouvoir les compter, les recenser. Avec ça, on se dit que l'homme du capitalisme n'est peut-être pas, comme Freud l'avait postulé, un animal de horde. Parce que la horde, c'est un lien social. Tandis que le camp, ce n'est pas un lien social, c'est un agrégat. Le prolétaire, tel que Lacan définit, hein, celui qui n'a pas rien pour faire lien social, le prolétaire est condamné au camp. Cette gestion des espaces de la planète, qui est tout ce qu'il lui reste pour contenir les diversités de corps. Et tout ce qui va avec les corps, hein, on sait bien. De la contenir par des murs, des frontières, et automatiquement, s'il y a des murs et des frontières, il faut des polices des frontières qui gardent les espaces réservés. Il y a une logique là-dedans. Quand une chaîne signifiante, nous disons le symbolique, ordonne la réalité des corps, elle préside à une ségrégation qui répercute la différence signifiante. En fait, elle préside à une double ségrégation. Quand la chaîne signifiante tient. Une ségrégation interne au discours entre ce qui est commandé et ce qui commande, et service 2, et une ségrégation de ce qui est hors de ce discours. D'où l'expression racisme des discours. Le corps y est concerné, bien sûr, puisque chaque discours préside à une corporection homogénéisante. Corporection, c'est un terme de Lacan, qui désigne au fond la socialisation des corps du besoin, comme de l'érotisme, les corps du besoin et de l'érotisme. En ce sens, tout discours est un biodiscours. Mais quand les chaînes se défont, restent comme possible les camps des uns prolétaires, succédanés de l'ordre discursif en voie de péril. Quand nous disons camps, nous pensons au plus spectaculaire du passé et à ceux du passé, hein, ceux du nazisme, ceux du goulag, et à ceux du présent, avec ces émigrés de la faim et de la terreur politique. Mais ça, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Tous les camps ne sont pas seulement pour les corps déportés, ils sont aussi pour les camps sédentaires. Tous ces sujets aujourd'hui cloîtrés dans des espaces cloisonnés et que toute diversité panique. Il est clair, me semble-t-il, que notre vie sociale s'organise de plus en plus en cellules séparées. On aura toute l'année pour en parler, hein ? Ségrégation des quartiers, des écoles, des âges et souvent ségrégation choisie. En outre, cet effet de cloisonnement s'entretient de lui-même parce que du coup il y a un cloisonnement des corporections et donc la socialisation des corps est de moins en moins homogène. Voilà, alors nous sommes sur le thème du réel des ségrégations. C'est le thème pour nous le plus actuel, le plus à fleur de phénomène, mais c'est aussi, je crois, celui qui nous confronte à notre impuissance maximum, qu'aucun effort de pensée ne risque de réduire. Les idéaux démocratiques, me direz-vous, oui. Les proclamations d'acceptation, voire d'amour de la diversité, why not? Les indignations aussi ne manquent pas, mais qui ne voit qu'elles sont parfaitement impuissantes contre des phénomènes qui sont des avènements de réel. Et je crains qu'elles ne servent qu'à la bonne conscience. Je ne veux pas vous faire un trop gros speech sur la bonne conscience, mais quand même. On le voit sur ce terrain-là de la ségrégation, des ségrégations quotidiennes, la mauvaise foi est grande. Et ce que Hegel appelait les belles âmes se donne libre champ. Alors, il faut poser la même question à cette ségrégation sans le père, sans Moïse, sans Akhenaton, hein, que la question que Lacan posait au milieu du siècle dernier à la ségrégation précédente. Comment le désir du psychanalyste peut-il se situer dans cette conjoncture ? C'est notre question, hein, c'est la question de notre politique. Alors je me disais, bon, prise comme ça, il n'y a aucune chance d'y répondre. Il faudrait plutôt se questionner sur ce qui distingue le un par un propre au capitalisme et le un par un dont la psychanalyse s'occupe. Nous avons ce point commun avec le capitalisme, le un par un. On ne peut pas dire, vous remarquez une différence, on ne peut pas dire que dans un cas il s'agirait de jouissance côté capitalisme et pas dans l'autre. C'est faux des deux côtés. D'abord, je sais bien qu'on voit beaucoup de collègues qui écrivent « Le capitalisme, civilisation de la jouissance ». C'est faux. D'ailleurs, Lacan lui-même disait « Civilisation du manque à jouir ». Mais surtout, il s'agit de jouissance aussi bien dans la psychanalyse. Dans les deux cas, tout discours est discours de la jouissance. Alors, la jouissance que l'on vise à homogénéiser dans le capitalisme, on voudrait la mettre au pair, au pas des plus de jouir identiques pour tous. C'est ça, la visée capitaliste. Dans la psychanalyse, à l'inverse, on vise la singularité de jouissance et la différence absolue, vous avez entendu parler. Et on fait valoir les traits distinctifs des jouissances propres à chacun. Donc, la jouissance, elle est des deux côtés, avec cette différence, homogénéisation ou singularité. C'est pas faux, tout ça. Mais je crois que pour saisir quand même l'essentiel, ou aller vers l'essentiel, il faut revenir à Freud et au lien qu'il a posé d'entrée et d'un bout à l'autre. L'inconscient est lié au sexe et toute la jouissance n'est pas liée au sexe. La jouissance elle est partout, mais celle du sexe n'est pas partout. Alors, au fond, la psychanalyse, elle ne procède d'abord à aucune corporection de jouissance, contrairement à tous les discours. Et dans l'espace de la jouissance sexuelle, cette jouissance spécifique qui est liée à l'acte sexuel, ce que la psychanalyse met en valeur, c'est l'impasse constitutive de la jouissance spécifiquement sexuelle. Autrement dit, elle met en valeur, la psychanalyse, l'impossible corporection du sexe. Champ spécifique des symptômes singuliers. Et pourtant, la psychanalyse n'est pas un relativisme. La psychanalyse n'a pas pour message de dire à chacun sa vérité de jouissance. Ça, on le sait depuis longtemps. Si la psychanalyse ne disait que ça, vous savez, ça n'irait vraiment pas loin. Il y a un universel de la psychanalyse. Les épars désassortis, ces singularités de jouissance ne sont pas sans tomber tous, sous le coup des effets du langage, avec sa logique et sa topologie. Et ces effets sont propres à tous les parlants et de tous les temps, si l'hypothèse de Lacan se soutient. Et elle est à distinguer, ces effets de langage sont à distinguer des effets de discours qui, eux, sont irrémédiablement historiques, sujets aux évolutions du temps. Alors, je conclue. Hein. Dans l'hypothèse de Lacan, du langage opérateur, le langage qui est, je cite page 15 de Encore, le langage qui est hors des corps qui en sont agités. Eh bien, malgré la généralisation des camps pour régler les voisinages de corps, il n'y a pas de camp pour les effets de langage, qui eux sont partout, transcamps en quelque sorte. J'ai dit dans l'hypothèse de Lacan, l'hypothèse du langage opérateur. Et je me demande, à vrai dire, si les analystes d'aujourd'hui, si pour les analystes d'aujourd'hui, ils sont variés, les analystes d'aujourd'hui. Il y a parmi nous, on est déjà très variés, puis il y a tous les autres qui ne sont pas parmi nous. Bon. Mais je me demande si quand même, pour les analystes d'aujourd'hui, quel est le poids de l'hypothèse lacanienne dans leur conception de l'analyse et dans leur pratique de l'analyse. Quand je les vois, les analystes, former des comités d'experts qui n'ont rien d'autre à invoquer contre les pouvoirs ségrégateurs et contre l'eugénisme de la chasse à l'anomalie, les comités d'experts, ils n'ont rien d'autre à invoquer qu'un vague humanisme. Et contre la tyrannie de la performance, pareil, on invoque l'humanisme. Alors, je dis, on peut s'inquiéter quand même. On peut s'inquiéter de savoir si on croit encore à l'hypothèse de Lacan. Bon. Je vais laisser ça en suspens. Et la question me paraît la suivante. Entre l'intégration dissolvante des analystes dans le discours médiatique, d'un côté, et l'auto-ségrégation par l'extraterritorialité d'autrefois, y a-t-il une autre voie? Voilà.